Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Au commencement était le verbe et l'acteur qui porte ce verbe sur une scène de théâtre. Au commencement était la parole, compagne de l'oralité. Au commencement était la phrase qui induit le rythme. Et puis le souffle qui guide les émotions. Au commencement du théâtre, il y a donc cette musique que produit la voix et ce pouvoir de conviction, de séduction, de persuasion que détiennent celles et ceux qui savent que comment dire est sans doute bien plus important que quoi dire. Nous ouvrons aujourd'hui le chapitre Parole d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art qui s'y connaît en matière d'éloquence. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas. Il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat. Très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée à cappella. Sur le piano, si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mémère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids.
Bonjour Joris Lacoste.
Bonjour.
Vous êtes à l'initiative d'une vaste entreprise de collecte des formes orales dans toute leur diversité qui s'intitule Encyclopédie de la parole et qui, au fil de ses épisodes, propose aux spectateurs d'entendre autrement le verbe, le son, le bruit tel qu'il s'énonce dans le réel. L'opus que vous présentez à Paris dans le cadre du Festival d'automne et qui a été créé en octobre au Théâtre Garonne à Toulouse s'intitule Suite numéro 3 Europe. Il réunit un pianiste et deux chanteurs qui ont appris phonétiquement des bribes de discours glanées par vous en Europe, dans les agora politiques, dans les salons privés ou les coulisses de vestiaires sportifs. Bonjour Jean-Philippe Lafont.
Bonjour.
Vous étiez chanteur, vous étiez baryton, mais à la suite d'un accident, vous vous êtes reconverti notamment dans le coaching vocal. Vous coachez aussi bien des chanteurs que des professionnels d'entreprise ou des hommes politiques. Et vous venez de publier un livre sur le sujet aux éditions Larousse qui s'intitule « Avec voix et éloquence ». Alors entre vous deux, il y a un même motif d'attention qui nous intéresse particulièrement, nous gens de théâtre, c'est la parole et sans doute plus précisément la prise de parole. Mais je pense que le rapport à la prise de parole diffère totalement vous concernant l'un et l'autre. Quelle aventure menez-vous, Joris Lacoste, vous qui depuis des années au sein de cette entreprise nommée Encyclopédie de la Parole, collectez les mots, les bruits du monde pour les restituer ensuite sur scène en les ayant passés par le filtre de l'artistique?
Disons que dans notre cas, la prise de parole, c'est avant tout entrer dans une parole qui est déjà là, puisqu'on utilise des enregistrements de discours réels qu'on collecte et qu'on reproduit sur scène. Et donc, notre entreprise de théâtre consiste à relancer, réactiver des paroles qui ont été dites un jour, quelque part dans le monde. Donc, c'est une prise de parole. On prend pas tant la parole que on la vole, en quelque sorte.
Oui.
Puisque non seulement les mots des autres, mais c'est aussi toute leur manière de parler qu'on essaye de reproduire et de transformer en théâtre.
Et du vol à la manipulation, il y a sans doute un tout petit pas, on en parlera dans cette émission, que vous franchissez ou pas, je ne sais pas, Joris Lacoste. Je ne sais pas si vous le franchissez, Jean-Philippe Lafont, ce petit pas qui mène à la manipulation de la parole ou de la prise de parole, mais j'aimerais bien que vous nous éclairiez sur ce que c'est que ce métier de coach vocal.
Oh, manipulation, je ne dirais pas, je n'emploierais pas ce terme, je dirais user de toutes les réflexions, de toutes les intelligences pour faire en sorte que cette dite parole soit mieux comprise, mieux projetée. Et je remercie le monsieur qui est face à moi et qui m'interpelle parce que, en définitive, nous avons la même émotion pour le mot, pour la parole, pour le bruit, pour tout ce qui fait l'actualité liée à l'expression orale, n'est-ce pas? Donc, moi, je m'attache au mieux dire, parce que le mieux dire, c'est le mieux comprendre. Quand les gens vous comprennent, ils ont possibilité de vous répondre aussi, d'être d'accord avec vous, ou pas d'ailleurs. Mais qu'ils ne soient pas d'accord, ce n'est pas un problème. Au contraire, moi j'adore les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et si, par leur intelligence, persuasion, ils arrivent à me convaincre, je suis tout à fait d'accord. Et je les suis, je veux dire, comme une mariée à la messe. Hein, je veux dire. Voilà. Donc, le coaching vocal, c'est le mieux dire, le mieux parler, le mieux réfléchir avant de parler. Parler pour dire quelque chose, pas parler pour ne rien dire. Et c'est vrai ce que vous avez dit tout à l'heure, il vaut mieux le comment dire que le quoi dire, n'est-ce pas ? Voilà, donc on s'attache à la pertinence des consonnes qui sont les tracteurs des mots. Par là, la beauté du mot, par leur voyelle, n'est-ce pas ? Les silences, les ponctuations, c'est toute une architecture que l'on doit mettre en place justement pour magnifier l'art oratoire. Et l'art oratoire devient exponentiel, et monsieur le prouve, je veux dire, dans toutes les recherches qu'il a faites, pour en arriver à un spectacle construit, plein d'émotions et de force, je dirais.
Je voudrais qu'on écoute tout de suite un extrait de ce que Joris Lacoste cherche, collecte et consigne dans son encyclopédie de la parole. Vous allez immédiatement reconnaître la voix de cet homme politique.
Et comme partout dans le monde, les Français ont peur. Peur pour leurs économies, peur pour leur emploi, peur pour leur pouvoir d'achat. La peur, c'est une souffrance. La peur empêche d'entreprendre. La peur empêche de s'engager. Quand on a peur, on n'a pas de rêve. Quand on a peur, on ne se projette pas dans l'avenir. La peur est la principale menace qui pèse aujourd'hui sur l'économie. Il faut vaincre cette peur. C'est la tâche la plus urgente. On ne la vaincra pas. On ne rétablira pas la confiance en mentant, on rétablira la confiance en disant la vérité.
Voilà, je voulais qu'on écoute tout de suite cet extrait, Joris Lacoste et Jean-Philippe Lafont, par rapport à ce que vous disiez des consonnes. Parce qu'en l'écoutant, Joris Lacoste, je suis frappée que cet extrait où il parle de peur soit truffé de peu, de cette sonorité-là. Je ne sais pas si c'est pour ça d'ailleurs, c'est vous qui nous l'avez envoyé cet extrait, Joris Lacoste, dans tout le foisonnement que vous avez établi sur la toile avec Encyclopédie de la Parole, vous avez choisi celui-ci, pourquoi ?
Ouais, je l'ai apporté parce qu'il y a une chose qui m'intéresse en particulier, et je pense que ça pouvait être aussi l'objet d'un dialogue ici, c'est qu'est-ce que c'est qu'une parole vraie ? Qu'est-ce que c'est qu'une parole juste ? Pas vraie au sens où la personne dit la vérité, mais au sens où la parole sonne, sonne vraie, sonne juste, comme on dit qu'un chanteur chante juste. Et ce qui est frappant, je trouve, dans ce discours de Nicolas Sarkozy de 2008, donc c'est un discours qu'il fait au moment de la crise financière, et c'est un discours où il appelle à plus de régulation du capitalisme, avec des accents presque mélenchoniens, et ce qui est très très étonnant de sa part. Et moi, ce qui m'a frappé quand je l'ai entendu, c'est à quel point ce discours sonne faux. Je ne sais pas si vous partagez mon impression, mais il a une façon il a un phrasé où il dit chaque phrase comme si c'était un élément de liste. Les Français ont peur, il faut vaincre la peur. On sent que l'auteur du discours, Henri Guénaud probablement, l'avait écrit de façon beaucoup plus affirmative. Et ce qu'on entend là, c'est plutôt une forme de lecture sans aucune conviction. Et donc je voulais poser la question à Monsieur Lafont pour savoir, en tant que coach, comment il aurait travaillé avec Monsieur Sarkozy sur ce discours.
Il aurait peut-être fait travailler son legato, non ? Jean-Philippe Lafont,
oui,
ce qui fait le lien, d'après ce que j'ai pu lire dans votre livre avec voix et éloquence.
Ah, le legato, c'est le dénominateur commun, c'est l'élégance de la phrase, c'est l'élégance de la phrase parlée, c'est l'élégance de la phrase chantée, c'est le mot-clé en musique, je dirais, c'est le lier des idées, c'est le lier des mots entre eux. Il n'y a pas de plus beau mot que ce mot-là, le legato in italiano, vai. Mais le lier, l'enchaînement de la plus belle facture, n'est-ce pas ? Sans que l'on ressente une phrase hachée, sans que la peur, par exemple, arrive à... Ce que je remarque dans ce que je viens d'entendre, c'est qu'il est dit plusieurs fois le mot peur. Et ce mot peur est toujours dit de la même façon, Alors que on peut le dire de bien des façons. On peut le prendre la peur, La peur, le faire attendre, faire attendre le mot-clé, c'est un mot-clé dans ce que nous venons d'entendre. Et il sublimise, je dirais, le mot peur. Et il le dit toujours de la même façon. C'est un peu dommage. Il y a aussi une chose qui n'a rien à voir avec ce mot. C'est très souvent, pour ne pas dire tout le monde, les E de la fin des mots, mettons la confiance, j'ai entendu le mot, la confiance. Personne ne dit le « ce » final. On entend la confiance. La confiance. Alors, quand on est à 1m50 déjà, on comprend que ça veut dire la confiance. N'est-ce pas ? Je ne veux pas dire comme un Toulousain que je suis la confiance. Bien sûr que non. Mais ce n'est pas la confiance. C'est la confiance. Et il faut que ce « ce » soit mis dans la remontée du yo-yo. La confiance. Mais ce « ce » existe. Et personne ne le dit. Et puis il y a un autre mot aussi, juste avant, qui finit par « ce » ou « e ». Et ces « e-là » sont biffés. Et par exemple, les adverbes avec un « e » au milieu, on n'entend jamais le « e ». Immédiatement. Immédiatement. Ça ne veut rien dire, immédiatement. C'est immédiatement. Immédiatement. Et petit à petit, on en arrive à le mot est fort, hein, mais à aller dire notre langue, et une langue, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas? Parce que on ne prend pas le temps, le maître temps d'entrer dans le mot, d'entrer dans la valeur du mot, dans la beauté, dans la rondeur du mot. On n'ouvre pas le mot. Un mot, c'est comme une petite boîte à bijoux, n'est-ce pas? Il y a plein de surprises à l'intérieur. Et on parle comme ça, sans avoir quelque intérêt autre que de parler, sans arrêt.
Je vous propose de continuer la promenade dans l'encyclopédie sonore de Joris Lacoste. Et là, je voudrais qu'on passe par suite numéro 3, c'est-à-dire le spectacle qui vient là très vite au Festival d'automne et que vous avez créé au Théâtre Garonne à Toulouse. Avec un exercice de confrontation entre ce que vous avez fait à partir de ce qui était.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Ça, c'est l'original, ce qu'on vient d'entendre à l'instant, qui se passe dans le métro à Prague, enregistrement qui a été réalisé en 2013. Et ce qu'on entendait au début, c'était évidemment la transcription, la transposition, ou la manipulation, je ne sais pas trop, Joris Lacoste, que vous avez opéré pour faire de cette voix criant dans un métro un objet artistique, un sujet artistique même. Est-ce qu'on peut mettre en scène toutes les paroles, selon vous, qui vous y employez? Et comment mettons en scène la parole ?
Mais disons qu'en tout cas, on essaye de ne pas se limiter à des genres de paroles particuliers. On essaie de prendre toutes les paroles possibles ou toutes les situations possibles. Dans ce cas précis, c'était intéressant pour nous parce que c'est typiquement le genre de parole qu'on entend sans l'entendre dans le métro, qu'on entend sans vouloir l'entendre. Là, il s'agit d'une femme qui interpelle les voyageurs, pas tant pour faire la manche que pour... elle demande à boire, elle demande de l'eau, elle a soif. Napit, ça veut dire à boire, elle veut boire. Et ce qu'on a fait avec ce document, c'est numéro 3, je l'ai écrit avec le compositeur Pierre-Yves Massé.
Qui est absolument d'ailleurs extraordinaire, cette partition est absolument
sublime. Chaque document de parole, Pierre-Yves Massé a écrit un accompagnement au piano. Mais avant d'écrire l'accompagnement au piano, il a retranscrit musicalement chaque parole. Donc là, en l'occurrence, il a transcrit en portée musicale les intonations, les inflexions et les rythmes exacts de cette femme dans le métro. Ce qu'on a ensuite demandé à l'interprète Bianca Iannuzzi d'interpréter. Et puis arrive ensuite à composer un accompagnement qui nous fait entendre la parole différemment. Et surtout le projet de suite numéro 3, c'est d'essayer d'être aussi exact que possible dans la reproduction ou la restitution de ces paroles réelles, mais en les transposant à la fois théâtralement et musicalement pour qu'on les entende différemment.
Mais c'est une question que je me posais en voyant Suite numéro 3, Joris Lacoste, et en lisant votre livre, Jean-Philippe Lafond. Est-ce que la richesse d'un vocabulaire, par exemple, c'est-à-dire l'éruption dans la langue courante d'un mot, un peu plus choisi, un peu plus ornementé, un peu plus précieux ou un peu plus inhabituel tout simplement, va modifier la prise de parole et peut modifier l'écoute qu'on a?
C'est une question sur le fond et sur la forme. Bien sûr que l'on se doit de réfléchir aux mots qui vont être le plus porteurs d'une idée, d'une pensée, au plus proche de la vérité de cette pensée, de sa force, de sa pertinence, n'est-ce pas ? Et c'est aussi la façon dont elle va être dite. C'est le face-à-face et le mariage de l'élocution et de la diction.
C'est quoi la différence entre l'élocution et la diction ?
L'élocution, c'est le fond de ce que l'on a à dire. C'est l'écrit de ce que l'on veut dire, le plus joliment possible. Et la diction sera évidemment la façon de dire ce qui aura été le mieux écrit possible. Mais ce que je dois dire du travail de monsieur, c'est un travail d'une très grande richesse d'esprit, d'une très grande intelligence. Je ne connais pas monsieur, mais je pense que c'est déjà une très très bonne personne, et le musicien aussi qui a fait le travail avec vous. C'est un acte d'amour, c'est un acte de générosité, parce que c'est un acte d'écoute des autres. C'est la vie, c'est un spectacle de vie. Vous avez été curieux de la vie des autres, de la vie AVIS et de la vie LAVIE. Donc, moi, je suis tout à fait partant pour rendre exponentiel le facteur vocal, et il n'y a pas, bien évidemment, que la voix d'opéra pour exprimer la voix humaine. Il y a toutes les formes extraordinaires. Autant de gens, autant de voix, autant d'expressions. Donc, il fallait aller vers, et vous y êtes allé, et moi je vous remercie, parce que c'est merveilleux, quoi. Vous faites preuve d'une très grande intelligence et d'une très grande culture, je dirais.
Joris Lacoste.
Ce qu'on essaie de faire entendre, en effet, c'est comment il y a de la vie et même de l'invention, de la créativité dans les paroles les plus ordinaires. Au départ, je m'intéressais surtout à la poésie sonore, puis à des formes, au discours politique, à des formes nobles de parole, à des formes très travaillées de discours. Et je me suis rendu compte, en commençant à accumuler, à collecter comme ça ces paroles, que je trouvais des formes de création, parfois dans des genres qui étaient considérés comme beaucoup plus mineurs, voire profanes, comme le jeu télévisé, par exemple, ou comme la sollicitation dans le métro, ou dans des conversations courantes, ou dans des messages de répondeurs, qui avaient parfois des manières de parler, des manières de poser sa voix, des manières d'inventer un rythme, ou de créer des mélodies, chez Julien Lepers, par exemple, dans Question pour un champion, ou chez Claire Chazal, au journal télévisé, ou chez mon marchand de fruits et légumes au marché de Bagnolet, qui inventaient dans leur manière de parler des formes, qui créaient des formes, qui étaient des formes qui n'avaient rien à envier à des formes poétiques qui se veulent et qui se proposent comme artistiques. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec l'Encyclopédie de la parole, c'était de mettre en relation, comme ça, des types de paroles qui appartiennent à des mondes différents et qui viennent de situations qui, a priori, ne devraient pas se superposer, ne devraient pas se croiser, et de voir comment dans les paroles les plus banales, les plus quotidiennes, les paroles qu'on n'écoute pas vraiment, en fait, pour leur forme, en général, ce sont des paroles qu'on écoute plutôt le sens, on essaie de se concentrer, parce que dans la vie, on a toujours besoin d'entendre et de comprendre le sens. Et il faut la transposition sur la scène du théâtre, c'est une manière de rééquilibrer ce rapport entre le contenu, ce qui est dit, et la manière de le dire. Donc c'est plutôt une manière de montrer comment la forme, comment la manière de parler, ça fait partie du contenu, ça modifie le contenu, et c'est un élément essentiel du contenu.
Jean-Philippe Lafond ?
Et je dirais même que, partant de là, il faudrait aller dans le monde, par exemple, des tziganes, dans le monde des aborigènes, tous les gens qui sont tellement éloignés de nos civilisations et qui ont à dire et qui disent, et il faudrait aller à leur rencontre, vu que eux ne peuvent pas venir, ils n'en ont pas les possibilités. Nous, on les a, et il faudrait se servir, justement, de nos moyens pour aller découvrir, parce que je pense que vous en êtes au début de votre recherche et de votre art, parce que c'est un art que le vôtre, n'est-ce pas? Donc il faudrait aller écouter d'autres sons gutturaux, d'autres sons qui raclent, d'autres sons qui expriment la vie, la souffrance, le bonheur, de différentes façons. Des gestes aussi, des gestes qui sont liés aux voix. C'est une façon de s'ouvrir au monde, parce que nous avons un dénominateur commun, l'homme a un dénominateur commun, qu'il habite en France ou en Papouasie ou ailleurs. Je veux dire, le dénominateur commun, c'est la voix. La voix qui, au départ, était le verbe, vous l'avez dit, et au départ était le grognement de l'homme des cavernes. Aujourd'hui, bon, il y a le chant sous toutes ses expressions, mais le chant y était déjà. Et il est partout ailleurs différent. Parler, chanter, c'est la même dynamique, hein, cela dit. Donc, moi, j'ai envie avec vous d'aller vers ces horizons qui ne peuvent que nous montrer d'autres voies merveilleuses.
Ya, 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 ya. Nay, day, 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 day. Ya, 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 na, na, oui papa, oui chéri, oui patron, y'en a marre, oui papa, oui chéri, oui patron, y'en a marre, oui papa, oui chéri, oui patron, y'en a marre, oui papa, oui chéri, oui patron, y'en a marre, oui papa, oui chéri, oui patron, y'en a marre. Oui papa, oui chéri, oui patron, y'en a marre. Oui papa, oui chéri, oui patron, y'en a marre. Oui papa, oui chéri, oui patron, y'en a marre. Et je repars plus fort, la partie nord est en accord avec le plus encore. Stop, non ma formule d'abord, qui l'a, qui n'a pas. Ça ne se voit pas, ça se sent, on se ressent. De quoi on se souviendra dans 10 ans, des jeans sim.
On vient d'entendre un autre extrait d'un autre de vos spectacles, Joris Lacoste, c'est Parlement avec l'exceptionnel, que dis-je, l'exceptionnel, la fabuleuse, Emmanuel Lafont. Et ce qui me trouble beaucoup en écoutant cet extrait, ce qui m'avait troublé quand j'avais vu le spectacle, c'est cette lisière très floue entre l'articulé et l'inarticulé. Au fond, moi j'avais eu le sentiment, et je continue à l'avoir, que le comment dire, c'est-à-dire aussi l'inarticulé d'une certaine manière, la production de son, la production de graves, d'aigus, d'intensité qu'on met dans la voix est aussi importante, voire même plus importante que le mot lui-même. Qu'est-ce que vous en dites, Joris Lacoste? Est-ce que c'était pas un peu ça aussi que disait ce spectacle-là, en l'occurrence?
Oui, c'est un spectacle où on mâche beaucoup de mots, où on ne mâche pas ces mots, et en même temps, on les mâche, on passe son temps, il y a une mastication, dans le sens où on prend, dans Parlement, on traverse une centaine de paroles différentes, comme ça, qui sont enchaînées de différentes manières. Là, c'est plutôt le début du spectacle, où on a entendu d'abord une performance de Joseph Beuys de 1968, Ya, 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 Né, 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 qui s'enchaîne ensuite avec un slogan féministe des années 70, puis ensuite on a ce rap, et enfin une publicité pour Quick. Donc on essaie d'enchaîner comme ça les choses très, très rapidement pour aussi montrer comment ces registres de discours se télescopent et comment on est traversé tout le temps dans la vie par toutes sortes de formes de paroles du matin au soir qui appartiennent à des mondes et à des registres et à des niveaux de discours complètement différents. On est tissé de ces discours-là, soit parce qu'on les produit, soit parce qu'on les entend. Et c'est une manière, le travail qu'on fait, et peut-être Parlement en particulier, c'est une manière de se s'orienter dans ce tissu de discours, dans ce tissu de langage. C'est une manière de voir comment on peut résister ou comment on peut développer des stratégies pour évoluer dans une forêt de discours qui n'est pas ordonné, qui n'est pas classé, qui n'est pas articulé, qui est très 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 hétérogène. Et donc c'est cette mastication, cette manière de passer par la matérialité de la parole, c'est une façon aussi d'être au niveau le plus primaire, c'est-à-dire qu'on essaie de pas porter de jugement sur ces paroles, on les prend parce qu'elles ont un intérêt pour nous à un endroit ou à un autre, un intérêt formel ou un intérêt de composition, et on essaie de voir comment en les travaillant de façon très musicale, on peut réussir à rendre quelque chose de ce paysage dans lequel on vit.
Le mot n'est pas toujours nécessaire. Si vous voulez exprimer une humeur joyeuse, on peut faire, j'allais dire n'importe quoi, certainement pas, mais on peut faire ce que l'on veut avec la voix. On peut avoir une mélodie quelle qu'elle soit, on peut être compositeur, compositrice immédiat, je dirais. On peut user de ces possibilités vocales comme on le souhaite, et le mot n'a pas d'intérêt au moment où on le dit. Au départ, vous l'avez dit, nous l'avons dit, il y avait le verbe, mais avant le verbe, il y avait le grognement. Des choses comme ça, il se comprenait très très bien. Ensuite, avec l'évolution de l'homme, il y a eu le cerveau qui s'est développé. Le mot est arrivé en même temps que se développait ce dit cerveau, cette intelligence, cette précision de la pensée, n'est-ce pas? Et donc, le mot est arrivé. Dès l'instant où le mot est là, il faut le respecter. Et il faut respecter le fait que l'on a choisi un mot plutôt qu'un autre. Voilà. Donc, on en arrive à des exercices pour justement faire en sorte que le mot sorte convenablement de notre individu pour qu'il soit projeté au mieux. Et il est certain que si on continue à mélodier, quoi, comme je l'ai fait tout à l'heure, il n'y a pas de mot, mais dès l'instant où on prend le parti pris de chanter vers le mot et d'abandonner un peu la voyelle, comme cela. Donc, il faut changer de registre, n'est-ce pas? Comme le coureur cycliste qui change de plateau. Donc, il faut être dans une autre dynamique et arriver à être logique. Et cela aussi, c'est le legato de la vie. Je veux dire, on passe de la mélodie au parler, du parler à la mélodie, du parler au chanter, et tout cela s'imbrique très très bien, mais simplement il faut le vouloir, il faut avoir cette énergie là, et pas se laisser aller comme ça, parler comme ça, fatigués que nous sommes déjà en se réveillant le matin. Non, il faut avoir une vraie énergie positive et arriver à nos fins par une juste mesure de la situation. Qu'est-ce que l'on veut dire? Qu'est-ce que l'on ne veut pas dire? Qu'est-ce que l'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux que... Voilà, c'est un besoin que nous devons avoir en nous pour nous affirmer autrement.
Allons, enfants de la patrie, le temps de boire est écoulé. Il nous faut de l'ivrognerie.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Philippe Lafont et Joris Lacoste. On se quitte, Jean-Philippe Lafont, avec ce détournement de la Marseillaise que vous avez chanté au micro de France Musique. Je rappelle vos deux actualités, la vôtre Jean-Philippe Lafont avec ce livre intitulé « Avec voix et éloquence » qui est sorti aux éditions Larousse, la vôtre Joris Lacoste avec la création de Encyclopédie de la parole suite numéro 3 Europe, création musicale, vous l'avez dit, de Pierre-Yves Massé avec Denis Chouillet au piano, il est formidable, Bianca Iannuzzi et Laurent Deloye au chant. C'est du 21 au 24 novembre à l'espace Cardin Théâtre de la Ville dans le cadre du festival d'automne, puis le spectacle part en tournée à Lisbonne, à Reims en février, avant de se rendre à Bruxelles au Kunsten Festival des Arts en mai.
Il sera aussi à Cergy en janvier.
Et il sera à Cergy en janvier. Vous pouvez et même, vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Jean-Frédéric, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Il est presque 16h sur France Culture. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet.
Délaissons notre indifférence, unissons nos voix et nos cœurs, unissons nos voix et nos cœurs, les liqueurs, l'alcool et la bière vont ruiner notre beau pays, ils feront d'un vrai paradis. un enfer sur tout un cimetière. À lèvres tempérant, point de lâche en orant, buvant, chantant, et plein d'ardeur, marchant en conquérant.